Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Souvenez-vous de vos premières minutes sur cette terre, de ces premières goulées d'oxygène, de ces premiers regards avec vos parents. Souvenez-vous de ce besoin inné de vous attacher à une figure adulte sécurisante, cet attachement essentiel qui imprégnera vos relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, sociales. Le théoricien de l'attachement, John Bowlby, nous dit que l'on peut définir l'attachement comme une stratégie utilisée par un enfant pour obtenir confort et sécurité. Mais comment naît un attachement sécurisant? Le processus d'attachement est-il le même quand on est un garçon ou une fille? Pourquoi l'attachement peut-il devenir insécurisant? Quelles sont les répercussions dans la vie adulte? Quels sont les principaux troubles de l'attachement? Et comment y remédier? Éléments de réponse avec nos experts. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et chercheur à l'université de Mons en Belgique. Vous avez notamment collaboré avec le neurologue et éthologue Boris Cyrulnik. Et vous avez publié, parmi vos nombreux ouvrages, chez Odile Jacob, Le bon choix amoureux. Bonjour Blaise Pierre Humbert. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et chercheur en pédopsychologie. Et vous avez publié en poche chez Odile Jacob, Le premier lien, théorie de l'attachement. Et vous êtes en duplex de Lausanne. Bonjour Anne Lucas.
Bonjour.
Vous êtes infirmière puéricultrice dans une PMI du 18e arrondissement de Paris. Rappelez-nous en quoi consiste votre métier d'infirmière puéricultrice.
Infirmière, c'est le diplôme de base, et un an d'études supplémentaires pour être puéricultrice spécialisée dans l'enfant et l'adolescent de 0 à 18 ans.
Bonjour Héloïse Zellereté.
Bonjour.
Rédactrice en chef mensuelle Sciences Humaines. Alors, le Robert nous dit que l'attachement, c'est le sentiment d'affection durable qui unit aux personnes. Bruno Humbeck, c'est quoi l'attachement d'un point de vue scientifique?
Alors, il faut bien comprendre que l'attachement, c'est un mécanisme vital. C'est pas un hasard si les bébés sont mignons. La nature ne fait rien par hasard, d'ailleurs. Les bébés sont mignons parce qu'ils doivent stimuler l'attention de quelqu'un qui va leur accorder des soins. Et donc, forcément, sinon, ils ne survivraient pas. Et donc, ils ont ce mécanisme inné en eux qui est d'attirer. D'ailleurs, les enfants, plus ils ont besoin de soins, plus ils vont être mignons. On le sait, ça existe d'ailleurs chez le gorille aussi. Si vous avez des yeux très ronds, des oreilles détachées, vous arrivez à un enfant Mickey, par exemple, celui-là va attirer l'attachement, va stimuler l'attachement et attirer les soins, et des soins de qualité. On le voit par exemple que plus un enfant a besoin de soins de qualité, par exemple les petits-enfants atteints de trisomie 21, ont des mécanismes qui stimulent un attachement, y compris chez le gorille, puisque la trisomie existe chez lui aussi, de meilleure qualité, dans un premier temps en tout cas. Après, évidemment, il va falloir travailler sur les représentations de la maman et lui suggérer que c'est peut-être une chance d'avoir un enfant aussi attachant plutôt que de lui annoncer la trisomie comme un malheur. Mais ça, c'est un autre débat.
Blaise Pierre Humbert, le grand théoricien de l'attachement, John Bowlby, nous dit qu'on peut définir l'attachement comme une stratégie utilisée par un enfant pour obtenir confort et sécurité.
Oui, cette notion de sécurité est tout à fait importante. Disons, ce que je dirais qui est intéressant, je me suis référé à, non pas au synonyme de l'attachement, mais j'ai examiné ce qu'on appelle l'espace sémantique de l'attachement. Vous savez que l'université de Caen a mis au point un système basé sur des associations de mots dans la littérature ou dans divers textes et permet de voir une sorte de constellation autour de mots. Et alors, c'est intéressant parce que le mot attachement, lorsqu'on examine son espace sémantique, eh bien, on trouve effectivement, on vous a parlé tout à l'heure de l'affection, l'attention, la sympathie, l'amitié, mais il y a un terme qui ne figure pas dans la proximité sémantique de l'attachement, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est le terme de dépendance. Mmh. Parce que certains ont dit, oui, l'attachement, c'est un petit peu comme la dépendance. En fait, non. Et c'est une chose intéressante, c'est que dans l'approche scientifique de John Bowlby et des autres théoriciens de l'attachement, eh bien, cette idée d'attachement, effectivement, est associée à l'idée de sécurité. Mmh. Sécurité et non pas de dépendance. Et ça, je pense que c'est important. Alors, justement, ce terme de sécurité ne fait pas non plus partie de la constellation attachement lorsqu'on examine cet espace sémantique. Alors voilà deux choses ici intéressantes, je dirais, c'est cette notion de sécurité qui était soulignée par John Bowlby et ses élèves, et puis cette notion donc qui fait que l'attachement n'est pas la dépendance, c'est différent. Hein.
Anne Lucas.
Alors, c'est souvent confondu par les parents, parfois, qui ont peur que leurs enfants deviennent dépendants si on les prend trop dans les bras ou si on repent trop aux pleurs. C'est tout un pan de notre travail d'expliquer qu'est-ce que l'attachement et ce dont le tout-petit a besoin, ce tout-petit qui naît très immature et très dépendant de l'adulte aussi.
Alors, l'attachement, c'est une nécessité hein, dès les premiers jours de la vie et tout au long de la vie, Bruno Humbeck.
Tout au long de la vie, c'est pour ça qu'on va construire très vite ce qu'on appelle des modèles internes opérants, c'est-à-dire qu'en fait on aura des modèles d'attachement, parce qu'on va devoir s'attacher et être attachant vis-à-vis d'autres, hein, parce que c'est d'abord ces modèles internes opérants qui vont devenir ce qu'on appelle des modèles affectifs édifiants, donc des manières d'aimer, de se représenter soit par rapport aux autres, et qui vont, et ça c'est toujours important dans l'attachement, construire ce que Stern appelait un accordage affectif, qui se réalise comme une espèce de danse avec l'autre. Hein. Il faut savoir que l'attachement, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. On s'attache à quelqu'un qui va réagir dans cette danse. Si on lit par exemple « Lettre d'une inconnue » de Stephen Zweig, on voit comment un attachement à fond perdu, à quelqu'un qui reçoit des lettres d'une inconnue et qui reste inconnu sans s'attacher, c'est un modèle unique, je vais dire, dans la littérature, qui montre que l'attachement c'est aussi une danse auquel les mamans et les papas, mais les mamans dans un premier temps, sont très très bien préparées dans ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de prendre dans les bras, d'utiliser ce qui est le vrai véritable langage de l'attachement, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, c'est la manière de parler de l'attachement et de l'incorporer avec l'autre.
Anne-Luca.
Oui, et puis ça, l'attachement, c'est l'enfant et l'adulte qui s'occupent de lui, ce sont les deux. C'est-à-dire qu'il y a des capacités chez le bébé et il y a des capacités chez l'adulte, le père, la mère ou l'adulte qui s'occupe de l'enfant, qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins opérants et qui sont plus ou moins souples. Et c'est toute une adaptation, comme vous dites, entre un tout petit avec ses capacités. Et il y en a qui ont plus de capacités que d'autres. Il y a des bébés qui pleurent plus que d'autres. Il y a des bébés qui demandent plus que d'autres. Et la capacité à la maman, au papa ou à l'adulte de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre et de pouvoir répondre, même imparfaitement. Parce que c'est pas parce qu'on répond vite la première fois que c'est bien. On peut parfois répondre, on peut comprendre au bout de la première, deuxième, troisième fois, peu importe, mais on répond. Et ça, c'est vraiment, comme vous dites, c'est vraiment une danse et un accordage, un apprivoisement. J'aime bien aussi utiliser ce terme dans les premiers mois.
Héloïse Lhérété.
Oui, l'idée que l'humain est un animal social, affectueux, un animal de compagnie, c'est une idée qui parcourt la pensée occidentale depuis des millénaires. Ce qu'apporte vraiment la théorie de l'attachement, au fond, ce sont deux choses. La première, c'est que la construction de liens affectifs, qui commence donc dès les premières minutes de la vie, vous l'avez dit, correspond à un besoin biologique, un besoin primaire, fondamental, au même titre que le besoin de nourriture, on pourra y revenir. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ce que vous avez dit, c'est que ces premiers attachements, ils ont des répercussions de longue durée sur la manière dont on va forger notre personnalité, sur la manière dont on va aussi se comporter par rapport aux autres, affronter la vie et les menaces, et puis aussi ce qu'on va attendre des relations amoureuses et affectives.
Et puis, c'est quelque chose qui se passe quasi obligatoirement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de quoi chez le père ou chez la mère, parfois, c'est une autre personne qui fait office de... Mais en tout cas, c'est quelque chose que le bébé va rechercher intrinsèquement, férocement, de pouvoir avoir une personne de référence vers qui se tourner en cas de signaux de détresse.
Mais c'est vrai aussi qu'il y a des couacs de l'attachement. Donc, comme dans la danse, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même pas dans un premier temps. Il y a une forme de dyschronie qui peut s'opérer, qu'on peut s'opérer toute notre vie d'ailleurs, hein, y compris avec nos partenaires amoureux. On peut parfois être en dyschronie avec cette personne-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que les auditeurs entendent tout de suite que la perfection dans l'attachement est de toute façon une erreur.
Blaise-Pierre Humbert, à qui doit-on cette théorie de l'attachement? On la doit à un psychiatre et psychanalyste britannique, John Bowlby, qui l'a théorisé dans les années 1940, c'est bien ça?
Alors c'est bien ça. Et ce qu'il faut préciser, c'est que John Bowlby effectivement était psychanalyste. Donc c'est un psychanalyste très reconnu, enfin qui avait une position, disons, de tête dans la psychanalyse britannique de l'époque. Il a été renié par ses pères. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que ses pères psychanalystes n'ont pas voulu reconnaître dans sa façon de s'intéresser, disons, au comportement. Parce qu'effectivement, c'est un psychanalyste très curieux qui s'est intéressé notamment à Conrad Lorenz. Vous savez, l'histoire des petits canards qui, à l'éclosion, suivent leur mère, etc.
Conrad Lorenz, c'était un grand éthologue autrichien.
Vous savez, c'était un petit peu disqualifié, en quelque sorte. Donc, et alors, la psychanalyse s'est beaucoup méfiée de cette théorie de l'attachement, il faut le dire. Et alors, ce qui explique que, en France en particulier, pourquoi en France? Parce que la France est un pays, je pense, enfin moi je le dis depuis Lausanne, donc voilà, je ne me mouille pas trop, mais est un pays dans lequel, et c'est positif ce que je vais dire, c'est-à-dire dans lequel on a une exigence de rigueur théorique qui me paraît assez importante, qui n'est peut-être pas aussi importante dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple, plus pragmatique probablement au niveau de théorie, au niveau de la théorie. Et alors, en France, donc, la psychanalyse a limité l'accès à l'attachement pendant très longtemps. Et on doit, finalement, à quelques personnes dont Serge Lebovici, qui était un psychanalyste français, malheureusement décédé il y a une dizaine d'années, et qui, lui, tout en étant psychanalyste, a revalorisé cette idée d'attachement en disant finalement, ça peut être intéressant. Et maintenant, je crois que même les psychanalystes, après ce rejet initial, surtout en France, j'insiste, de la théorie de l'attachement, eh bien, s'y intéresse de nouveau, peut-être aussi parce que un de vos intervenants tout à l'heure a parlé de cette question des modèles internes, hein, des modèles internes opérants, comme on dit. Alors, évidemment, qui ramène cette théorie de l'attachement non plus seulement à l'étude des comportements, comme des comportements animaux. Quelqu'un a dit aussi tout à l'heure cette espèce de continuité, en fait, entre l'animal et l'humain. Eh bien, on ne s'intéresse plus que dans cette théorie de l'attachement, on ne s'intéresse plus qu'au comportement animal, au comportement humain, mais également à ce qui se passe dans sa tête, dans la tête de l'humain, dans la tête du bébé, des parents, etc. Et ces fameux modèles internopérants, c'est-à-dire ces représentations, en quelque sorte, ces idées, ces fantaisies autour de l'attachement, et qui, je pense maintenant, en retour, donc, ont de nouveau intéressé nos collègues psychanalystes.
Bruno Humbeck, comment expliquer le grand succès de cette théorie de l'attachement?
Alors, surtout telle qu'elle est revisitée maintenant. C'est-à-dire qu'elle va permettre simplement, parce que le petit bémol qu'on a longtemps mis autour des théories de l'attachement, c'est qu'elles sont déterministes. On a l'impression que si on a un attachement sécure, bah, ce sera toute la vie. S'il est insécure, ce sera pour tout le temps. Et avec les modèles internopérants, on sait maintenant qu'on peut les retravailler. Parce que c'est un peu comme si vous aviez un scénariste au milieu de votre tête qui écrit des scénarios à l'avance. Lorsqu'on les décrypte, on comprend alors comment on peut agir sur ces scénarios. Et c'est ça, le succès aussi des théories de l'attachement, telles qu'il est revisité par la psychologie cognitive.
Rappelez-nous ce qu'est un moderne interne opérant.
Alors, un modèle interne opérant,
de façon simple.
C'est, alors, de manière très simple, on va imaginer, vous avez un attachement sécure avec votre maman qui est super rassurante, etc. Eh bien, avec votre partenaire amoureux, vous allez avoir tendance à reproduire le même scénario et à vous dire, finalement, l'amour, c'est quelque chose de durable, de solide. Si c'est un peu plus compliqué, si vous avez un attachement qu'on a appelé ambivalent, ben, vous aurez tendance non seulement à faire une représentation de ce qu'est l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas nécessairement fiable, mais de ce que vous êtes par rapport à lui, c'est-à-dire que ben, vous allez vous dire, peut-être que mon partenaire va me lâcher, et vous allez adopter un certain nombre de comportements en fonction de ce scénariste.
Anne-Lucas, pourquoi la théorie de l'attachement est aussi importante dans votre métier d'infirmière puéricultrice?
Dans plein de domaines, elle est très importante. Dans, effectivement, la compréhension entre un bébé et son parent, ça c'est inévitable. Dans les relations entre professionnels aussi, elle apporte un éclairage très intéressant. Et donc, au moins dans ces deux domaines-là, moi je l'utilise tous les jours. Ça m'aide à comprendre comment je peux interpréter des observations que je peux faire, comment je peux parler aux parents, parce qu'en fait, on se rend compte dans cette théorie de l'attachement que pour qu'un parent réponde à son bébé, il faut qu'il soit lui-même disponible, il faut qu'il soit lui-même assez serein. Pour qu'il soit assez serein, il faut quand même un contexte autour qui favorise cette sérénité. Donc dans mon travail aussi, c'est de pouvoir permettre à ses parents d'avoir ce contexte-là, en tout cas dans la PMI, pour pouvoir offrir un espace de regard et d'échange entre ce parent et ce bébé. Donc moi, je l'utilise aussi comme ça. Et puis, en tant que responsable même d'une toute petite équipe, on peut aussi rattacher c'est le cas de le dire, enfin, utiliser l'attachement entre un chef d'équipe et une équipe. Comment est-ce que, face à une équipe, on répond à ce besoin de sécurité, de sérénité et de réponse en cas de besoin ?
Héloïse Déréter.
Oui, l'attachement a des applications aujourd'hui dans de nombreux domaines, hein, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on s'y intéressait aussi à sciences humaines. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une série d'applications dans le domaine judiciaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection sociale. Par exemple, on essaie aujourd'hui de placer les enfants plutôt dans des familles d'accueil chaleureuses avec des figures d'attachement stables plutôt que dans des grosses institutions. Au niveau des crèches, on va essayer d'éviter que l'enfant soit ballotté de personne à personne. Il lui faut des personnes significatives. Dans les maisons de retraite aussi, c'est quelque chose qui commence à se développer timidement.
Bruno Mbeck.
Alors, c'est vrai, en fait, le principe, c'est de comprendre ces mécanismes qui font que l'attachement, c'est un processus naturel, mais qui devient une construction mentale. On doit voir comment, aux différents âges de la vie, ça devient cette construction mentale.
Allez, Alexia Rivière, Alexia Lacour et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove, et c'est réalisé par David Leprince.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. À 5h, j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. S'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Allez, Julien Bisson, vous pouvez continuer à chanter, vous chantez en antenne. Allez-y, faites-vous plaisir. Non, il n'ose pas, il est tout timide d'un coup. Eddie Mitchell, la dernière séance.
Grand bien vous fasse.
De toute façon, tu ne me comprendras jamais. T'es plus ma mère, ok, je fugue.
Ali Rebéi.
En fait, j'ai réfléchi et je t'aime trop.
Ah, t'étais parti. Allez, va mettre la table, s'il te plaît.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à l'attachement avec les psychologues Blaise Pierre Humbert et Bruno Humbeck.
L'éthologie est à l'origine des théories de l'attachement, c'est-à-dire de la jonction entre la génétique, le développement et les liens qu'on tisse avec les figures d'attachement. Si je suis, moi, être humain, bébé préverbal ou enfant ou adulte, si je suis seul, je ne perçois pas le monde de la même manière que si je suis en présence d'une base de sécurité. Quand je suis bébé, cette base de sécurité, c'est ma mère. Or, S'il n'y a pas d'attachement autour de lui, même si le bébé est sain, il ne va développer aucune de ses compétences. C'est pas le développement qu'il aurait eu s'il y avait eu l'enchaînement normal des situations.
Le grand neurologue Boris Cyrulnik sur France Culture en 2015, Boris Humbeck, Bruno Humbeck, vous avez vu le lapsus, vous avez travaillé avec Boris Cyrulnik,
oui,
vous avez
eu la chance la semaine prochaine,
de travailler avec lui, et je rappelle que vous êtes psychologue. On entend souvent parler de résilience quand on évoque la question de l'attachement. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette notion qui a été popularisée par Boris Cyrulnik?
Il l'explique déjà en partie, hein, ici en parlant notamment de la manière dont on va pouvoir trouver ce qu'il appelle des figures d'attachement. Donc c'est pas nécessairement la maman, elle peut être défaillante, et certaines mamans doivent s'autoriser d'ailleurs à être défaillantes. On ne doit pas être des mamans parfaites qui développons l'attachement sécure systématiquement chez l'enfant. Ce qui est important de comprendre, et c'est ce qui est sous-jacent à la résilience, c'est que ces modèles internes opérants, on peut les retravailler à toutes les époques de sa vie, et ça va dépendre aussi des rencontres qu'on va faire, hein, les rencontres avec notamment ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, donc des personnes qui vont nous amener à repenser la manière dont on vit l'attachement et on se vit dans l'attachement. Il y a un concept essentiel, c'est celui de l'estime de soi. Il se construit aussi à l'intérieur de l'attachement parce qu'on va se trouver plus ou moins estimable.
Héloïse Lairetté, de Sciences Humaines.
Oui, ces tuteurs de résilience, ce sont des marins, des marraines, des grands frères, des grands sœurs, mais aussi des enseignants, des éducateurs, des moniteurs de sport. Mmh. En fait, on en croise tout au long de sa vie, déjà dans l'enfance, dans l'adolescence, et ils peuvent jouer un rôle très important. Boris Cyrulnik, il a aussi une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Faire naître un enfant n'est pas suffisant, il faut le mettre au monde. » Et au fond, c'est ça, à chaque rencontre significative que l'on fait, on trouve des outils pour se forger une sécurité intérieure, pour avancer, pour apprendre à aimer, à aider, à demander de l'aide et à tricoter son bonheur et celui des autres.
Anne Lucas, infirmière en puériculture.
En PMI.
En PMI.
Il est important de rappeler que ça se forge quand même la première année, c'est vraiment cette base d'attachement, avec une figure préférentielle qui après se développe. Il y a des figures d'attachement auxiliaires et autres. Et puis, on parle beaucoup de l'attachement sécure. Il y a des attachements insécures qui sont pas du tout pathologiques. C'est une adaptation de l'enfant à la figure d'attachement qu'il a en face de lui et qui, dans certaines conditions, sont plutôt intéressantes aussi.
Je vais même dire que l'attachement insécure, il doit toujours être en partie insécure. C'est dans le manque qu'on construit l'intelligence. C'est pour ça que les papas, les mamans doivent autorisés à être imparfaits. S'ils étaient parfaits, on ne penserait pas à l'affection, on ne penserait pas à l'amour, ce serait devenu un dû, et on aurait l'impression effectivement que c'est quelque chose qui ne doit pas se réfléchir.
Et puis c'est aussi dans la perfection que l'enfant se construit, c'est-à-dire qu'il se sent différent de son parent. Si on était trop en symbiose, comment on pourrait s'individualiser? Donc moi ce que je dis aussi aux parents, c'est que c'est pas parce qu'on a la réponse immédiatement qu'il faut culpabiliser, qu'il faut se dire qu'on est des mauvais parents, c'est aussi un espace où l'enfant se rend compte qu'il est différent.
Oui, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il ne faut pas une seule figure d'attachement. Ça peut même être pervers, dangereux. Donc, plus il y a de figures d'attachement, la question d'une hiérarchie, des figures d'attachement, elle est discutée, elle est encore controversée. Il en faut, au fond, tous âges.
Mais une la première année, principalement.
Et justement, Blaise Pierre-Ambert, vous êtes psychologue en duplex de Lausanne. Comment se construit l'attachement dès les premières semaines de la vie? Et quelles sont, pour vous, les images, les gestes qui illustrent à merveille l'attachement entre le nourrisson et ses parents?
Oui, avant de parler des gestes, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Donc c'est cette histoire de figure principale. Alors là, moi, après toute une carrière de recherche sur l'attachement, j'aimerais revenir un peu sur cette question parce que là, j'ai un désaccord avec la théorie. Alors, vous savez que cette théorie, effectivement, était basée sur ces fameuses observations des canards, etc., où on a vu que le jeune faisait une sorte d'empreinte sur un objet. Et alors, dit quand Lorenz, donc, montre que, effectivement, cette empreinte est unique, c'est-à-dire... lorsque le jeune s'est mis à suivre sa mère canard ou accessoirement les bottes de Lorenz, il va refuser toute autre empreinte. Hein, même si on lui présente ensuite sa vraie mère, s'il a suivi les bottes de Lorenz, eh bien, il va la refuser. Et alors, John Bowlby a pris modèle sur cette histoire-là pour construire cette théorie de l'attachement. D'où l'idée d'une figure primaire, d'une figure prioritaire vraiment d'attachement. quand les féministes ont râlé contre John Bowlby en lui disant, mais enfin, écoutez, et puis le père, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Eh bien, John Bowlby a eu énormément de peine, ça a pris des années pour qu'il admette qu'il y ait peut-être des attachements secondaires, et ensuite qu'il y ait une hiérarchie des attachements. Alors, cette notion d'hiérarchie, pour moi, elle me pose un gros problème, et c'est là que je voudrais intervenir, c'est-à-dire que je comprends bien l'idée, et je comprends bien que dans notre société, aujourd'hui, on est souvent dans cette situation-là, parce que, évidemment, c'est généralement, statistiquement, on pourrait dire, les mères qui s'occupent des bébés le plus, enfin bon, les pères, ça vient souvent après, d'où, effectivement, un peu cette idée de hiérarchie, c'est-à-dire... Les pères viennent plus tard, ils viennent en secondaire, ils viennent pour aider l'enfant à explorer le monde, par exemple. C'est une idée assez générale. Eh bien, moi, de par mon expérience personnelle, de par mon observation aussi des familles actuellement qui changent beaucoup, disons, dans leur structure, etc., eh bien... Je conteste un peu cette idée-là et je pense que beaucoup d'enfants forment des attachements sans forcément de hiérarchie. Il y a des attachements de qualité, oui.
Blaise Pierre-Ambert, vous avez donc cité Corrand Lorenz, on est un peu pédagogue et il faut rappeler qu'il est, c'est un célèbre éthologue autrichien, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question tout de même, qui intéresse nos auditeurs. Comment se construit l'attachement dès les premières semaines de la vie? Expliquez-nous.
Oui, alors, écoutez, dès les premières semaines de la vie, effectivement, l'enfant a une forme d'appétence pour le contact certains disent avec sa mère, mais on pourrait dire avec d'autres individus qui sont présents là. Et par exemple, un de nos collègues gynécologues, Pierre Rousseau, a montré que dès la naissance, dès que l'enfant sort du ventre maternel, eh bien, il a une sorte d'appétence déjà au niveau du regard pour essayer de trouver un contact visuel avec la mère. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là, mais qu'il faut un petit peu relativiser quand même, parce que j'aimerais quand même dire une chose, c'est que, par exemple, des enfants grands prématurés, n'est-ce pas, qui passent de longues semaines... peut-être en incubateur, maintenant peut-être moins parce qu'on valorise beaucoup le contact peau à peau et la position kangourou que peut-être les auditeurs connaissent, mais... quand même l'incubateur. Alors, on peut avoir des grands soucis en se disant, mais ces premiers gestes d'attachement qui vont renforcer le lien vont être difficiles et ne pas pouvoir s'exercer chez ces enfants-là. Eh bien, non. Finalement, alors c'est là que aussi une personne tout à l'heure a parlé de cet aspect déterministe de l'attachement. Et alors, effectivement, je crois que tout à fait à raison. Il faut dire que cette théorie a eu un aspect un peu déterministe, elle a été comprise de cette manière-là, mais il faut beaucoup relativiser les choses. Et alors, justement, dans ces premiers gestes, eh bien, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a parlé aussi de cette synchronie dans les échanges l'attunement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'accordage affectif, etc. Tout ça, effectivement, contribue, c'est une sorte, l'enfant dispose de tout un éventail.
Pierre Rambert, vous êtes à Lausanne et vous ne voyez pas ce qui se passe en studio. Il y a Anne-Lucas qui aimerait réagir.
Oui, volontiers.
Oui, non, je comprends tout à fait. Après, pour les grands prémas, c'est toujours la question de beaucoup de soignants qui s'occupent d'un même bébé. C'est pas tout à fait les mêmes gestes, la même manière de faire. Et pourquoi on a privilégié le pot à pot, ce qui est très bien, la présence des parents, c'est pour justement essayer de faire une continuité. L'enfant, il a quand même besoin d'un certain sentiment de continuité et de sécurité au départ. Alors effectivement, une personne, peut-être deux, mais il faut voir l'immaturité du bébé et la capacité à se raccrocher à beaucoup de personnes. C'est très compliqué.
Héloïse Lhéreté.
Très simplement, le bébé, il a des besoins, il les exprime en pleurant, il a faim, il a froid, il a besoin de contact physique. L'adulte qui est là, y répond ou n'y répond pas, ou il répond mal. Et c'est à partir de là que petit à petit vont se construire ce qu'on appelle ces modèles internes opérants.
Qu'est-ce qui insécurise l'enfant dans les premiers mois, les premières années du développement de l'enfant, Bruno Humbeck? Donnez-nous des exemples.
Alors, très clairement, l'absence de réponse à sa demande de tendresse. C'est un mot qu'on a trop peu utilisé. La tendresse, c'est, je le rappelle, le langage de l'attachement. Et la maman n'a pas le monopole de la tendresse. Hein. Dans ce qui a été dit, je reviens quand même dessus parce que c'est important de considérer qu'effectivement, quand on met une hiérarchie, c'est un système protopolitique. On met une figure. Si vous allez en Afrique, vous allez voir effectivement que toutes des tribus d'enfants s'occupent les uns des autres. Et ce sont des grandes sœurs qui ont des gestes tout à fait adapté. Et donc le principe, c'est la tendresse qui va rendre cette danse harmonieuse. Et le mot le plus important dans l'attachement sécure, c'est l'harmonie d'une relation basée essentiellement sur des gestes de tendresse.
Anne Lucas.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que plus il y a tendresse, plus il y a de signaux de tendresse, plus c'est riche, plus l'enfant se développe sa confiance en soi, son estime de soi. Et c'est très important. De la même manière qu'il est important pour l'enfant de savoir à qui il va demander de l'aide, quand il s'entrera en détresse.
Michel, bonjour, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Vous vouliez réagir ?
Oui, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui me tient à cœur. J'ai eu deux enfants, un peu sur le tard, et dès que mes enfants sont nés, je leur ai donné énormément de tendresse, d'amour et de présence. À savoir que dès qu'ils pleuraient, j'estimais qu'ils avaient besoin de quelque chose et mon instinct me portait à les prendre systématiquement dans les bras, à les consoler, à leur faire partager ce que je faisais. Alors j'avais une maman qui me disait, oh là là, ne prends surtout pas les enfants dès qu'ils pleurent, ils vont être capricieux, faut les laisser pleurer. Je ne l'ai jamais appliqué et je ne le regrette toujours pas aujourd'hui, alors qu'ils ont 22 et 24 ans. Mes enfants ont eu énormément d'amour, j'ai toujours été présente, j'ai pas été une mère parfaite, parce que comme vous avez dit, la mère parfaite, je sais pas si elle existe, mais ils ont su au niveau de leur éducation ils ont grandi en sachant que ils pouvaient toujours parler de tout, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour les entendre, les écouter. Ils ont bien sûr un jardin secret, mais j'ai toujours montré que je m'intéressais à tout ce qu'ils faisaient, ils étaient toujours là. Et je trouve que aujourd'hui ils ont 22 et 24 ans, ils sont autonomes, ils vont bientôt partir et je suis assez contente des liens que j'ai tissés avec eux grâce à cet attachement.
Michel,
voilà. faut pas avoir peur de prendre ses enfants dans les bras parce que ils n'ont jamais fait de caprice. Donc la théorie que ma mère voulait me faire entendre était totalement fausse. Un enfant, pour moi, qui pleure a besoin de quelque chose. Donc si c'était pas un biberon, c'était beaucoup de câlins. Et
Michel, le message de Pauline sur notre page Facebook vous parlera peut-être. Elle nous dit « Je ne peux pas vous appeler car je suis bloquée entre guillemets pour faire téter ma dernière de 16 mois, l'endormir avec un environnement sécure, de la proximité, du contact, des caresses, une tétée réconfortante, nutritive, chaleureuse, devenir maman. » A été une révélation sur l'attachement, le maternage proximal que je sens ancré dans mes tripes. Ça vous parle, ça, Michel ?
Totalement.
Alors, le principe de l'attachement, c'est aussi changer les formes d'attachement en fonction de l'évolution de l'enfant, parce que c'est vrai que l'adolescent, par exemple, va poser un problème particulier dans l'attachement, parce que lui, il va jouer, c'est comme une danse, de nouveau. Là, il va vouloir moins danser avec maman, il y aura peut-être d'autres partenaires plus disponibles. Il y a une image qui montre très bien ce qu'est l'attachement, comme il doit se fonctionner chez l'adolescence, c'est celle du nœud marin. C'est un nœud très très solide, mais qui se défait avec un seul petit mouvement. Et ça permet de comprendre comment on peut gérer l'attachement avec un adolescent.
Belle image. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé. Alors, Julien Bisson, cette semaine, il est question de Romain Gary.
Oui, mon cher Ali, Romain Gary, qui, je le disais, a plus qu'à son tour célébré l'attachement, a commencé par l'attachement maternel. On se souvient tous de sa grande phrase sur cette promesse que la vie vous fait à l'aube et qu'elle ne tient jamais. Gary, l'homme au milieu. Il vit Gary l'aviateur, le héros de guerre, l'ambassadeur, le chercheur de trésors, le séducteur impénitent. Gary l'écrivain surtout, deux fois pris Goncourt, on s'en souvient, suite à la plus grande supercherie de l'histoire littéraire française. Gary l'incandescent, qui n'a cessé de brûler sa vie par les deux bouts et qui fait enfin son entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade.
Alors pourquoi faut-il lire ou relire absolument Romain Gary aujourd'hui ?
Mais parce que Gary a tout vu avant les autres sur notre époque. Passé la comédie des apparences et des faux-semblants, la voix de Gary s'impose comme sacrément singulière, puissante, nécessaire, avec le temps pour allier qui lui confère sa véritable dimension. Une voix actuelle et universelle, des mots d'hier pour dire quelque chose du monde d'aujourd'hui. C'est lui qui nous alerte sur les dès 1974, sur les dangers de la virilité, le besoin de féminité, quand il écrit que tant qu'on ne verra pas à la tribune de l'Assemblée nationale une femme enceinte, chaque fois que vous parlerez à la France, vous mentirez. C'est lui qui célèbre l'Europe, cette Europe que nous n'arrivons plus à aimer et dont il rappelle au combien elle a besoin d'imaginaire. Lui qui annonce avant l'heure la solitude urbaine, le règne des machines qui vient, le manque d'amour qui nous étreint et qui nous fait adopter des pitons qu'on appellera gros câlins. Lui qui dénonce le racisme commun dans Chien blanc. C'est lui surtout qui joue les lanceurs d'alerte dès les années 50 sur le péril qui pèse sur la biosphère avec le formidable Les Racines du ciel. Premier roman écologique où la lutte d'un homme pour sauver les éléphants d'Afrique sert aussi bien de plaidoyer pour la vie et la dignité de l'espèce humaine. « Ce qui se passe dans nos mers est pire que la peste au Moyen-Âge », écrit-il bien avant les éditorialistes d'aujourd'hui. « La mer est notre ancêtre. Il a fallu à la vie plus de 100 millions d'années pour produire la tortue de mer géante, la baleine et le phoque moine. Il nous a suffi de 3 générations pour en arriver à un point où la disparition totale paraît presque inévitable. » Romain Garré était un désespéré qui a eu raison avant les autres, mais qui n'a jamais sombré pour autant dans le nihilisme actuel, qui nous incite à l'action, nous invite à l'amour, nous pousse à l'attachement, ce bel attachement que nous avons évoqué dans cette émission. Le drame des hommes et des femmes, écrivait-il dans La nuit sera calme, en dehors des situations d'amour, en dehors des situations d'attachement profond, est une sorte d'absence de fraternité. Alors retrouvons cette fraternité, prenons le temps de l'attachement afin de redécouvrir la tendresse, cette tendresse si chère à Bruno Humbeck, dont il estimait dans Gros Câlin qu'elle a des secondes qui battent plus lentement que les autres.
She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto. You might be next if you try to cut mama's cake.
What the deal, then?
Ask her what the deal is.
This is what she said.
Let's get back to the truth before we act, before we go astray.
Go astray.
Ask her what the deal is.
What the deal is, Danny? This is what she'll say.
On vient d'écouter Prince, Born to Die.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à l'attachement avec les psychologues Blaise Pierre Humbert et Bruno Humbeck. Et Julien Bisson, vous aviez une question.
Oui, on a beaucoup parlé des mères, un peu des pères, et je voulais parler aussi des grands-parents. Quel rôle peuvent jouer les grands-parents dans l'attachement des enfants, la recherche de figures d'attachement?
Et est-ce que les oncles, les tantes peuvent également jouer ce rôle-là? Bruno Humbeck, je rappelle que vous êtes psychologue.
Je crois que c'est important de ne pas mettre la pression sur les mamans et sur les parents même, hein, ce qu'on appelle des familles troncs, c'est-à-dire où tout se passe autour du couple conjugal qui se met une pression pédagogique intense. Ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres figures d'attachement et ce qu'on appelle l'amour sucré, c'est-à-dire des grands-parents qui se contentent d'aimer, mais de manière uniquement positive, parce qu'ils n'ont moins ce rôle structurant, qu'on leur donnait d'ailleurs dans des générations antérieures, et qui permettent à l'attachement de se réaliser sans qu'il y ait cette idée qu'il faut nécessairement structurer les choses ou cadrer les développements.
Al-Nuka, oui, infirmière puéricultrice.
Oui, ce sont des figures tout à fait importantes et des figures d'attachement auxiliaires qui peuvent prendre beaucoup de place chez l'enfant et de manière très juste. Comme vous dites, c'est un peu l'amour sucré et c'est aussi pouvoir tisser un autre attachement qu'on a avec ses parents qui est parfois tout aussi bénéfique. Donc, de la même manière qu'une tante, un oncle, un parrain, une marraine, ce sont évidemment plus il y a, plus c'est riche, pour l'enfant qui grandit, pour l'enfant plus grand.
Héloïse Lérété de Sciences Humaines.
Ce sont aussi des références souvent très stables par rapport aux parents qui peuvent se séparer, qui peuvent travailler beaucoup, qui ont un enjeu éducatif fort. Eux, ils sont là de manière assez inconditionnelle pour aimer, voir grandir leurs petits-enfants. Donc oui, bien sûr.
Et un enfant qui ne joue pas à faire semblant, c'est-à-dire qui n'a pas son petit théâtre du quotidien, c'est un enfant pour lequel il faut s'inquiéter. Mmh. Un enfant avant la parole, un bébé à l'âge de 15 mois, doit avoir acquis trois items, c'est-à-dire trois séquences comportementales. Il doit oser soutenir le regard, il doit savoir pointer du doigt, et il doit faire le pitre en faisant des petites comédies préverbales, un petit théâtre préverbal. Il doit jouer à tomber pour voir si sa mère va... il va y avoir une rescousse délicieuse. Si je joue à pleurer, elle va se précipiter, ça va être un grand moment où je vais faire semblant d'être fâché. Un enfant qui joue avant la parole, qui fait son petit théâtre préverbal, c'est un enfant qui parlera. Et un enfant qui ne pointe pas du doigt, qui ne soutient pas, qui ne joue pas, qui ne fait pas son petit théâtre, il faut s'inquiéter.
Boris Cyrulnik, chez Pascal Clark en 2003 sur Inter. Beaucoup de messages sur des liens d'attachement défectueux. Betty nous dit « Quand j'étais bébé, ma mère m'appelait tété dormir. Elle interdisait à ma grand-mère de me réveiller pour me câliner. Elle-même n'était pas du tout tactile, sans doute à cause de sa propre histoire très dure. Aujourd'hui, je vis difficilement la solitude, l'isolement. Peut-on y voir un lien de cause à effet, Bruno Humbeck ?»
Alors, certainement pas de cause à effet. Il faut éviter les causalités, des corrélations éventuellement. C'est-à-dire que, évidemment, on aura tendance à, lorsqu'on a été privé de gestes de tendresse, on a du mal à les produire et même à les recevoir, parce qu'il faut être réceptif pour ça. Mais tout s'apprend, et tout s'apprend dans un cadre sécurisant. Ça veut dire qu'il faut pouvoir tomber sur un ensemble de personnes qui vont avoir la patience de laisser ces gestes de tendresse se reconstruire lentement. C'est juste une question d'apprentissage et justement de construction, mais aussi de construction mentale. Le premier pas est fait quand on a compris qu'on avait des petits scénarios, comme Boris l'explique très très bien, des petits théâtres. Mais les petits théâtres, ils vont fonctionner toute notre vie et on doit pouvoir simplement réécrire le scénario quand il ne nous convient pas.
Et un autre internaute nous dit « Mes parents ont toujours été très distants physiquement, peu présents, soucieux uniquement de mes résultats scolaires. J'ai cherché jusqu'à l'âge adulte à briller à leurs yeux pour trouver leur amour, excellence scolaire, compétition sportive, au niveau conservatoire de musique. Ce fut dur, épuisant. Et sans effet. À 42 ans, je suis resté fragile, émotionnellement, et blessé de leur manque de démonstration d'amour. » Anne-Lucas.
Oui, l'attachement, il se construit aussi par le contact physique, c'est-à-dire que vous parliez de tendresse, les câlins, le toucher qu'on a un peu perdu de vue pendant un petit moment, mais là qu'on retrouve un peu, est aussi très important, notamment pour le petit bébé. Et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas reçu bébé, on peut le recevoir avec d'autres, on peut apprendre, on peut tisser d'autres liens. C'est ça qui est assez phénoménal avec l'attachement, c'est qu'il n'y a pas de prédiction. C'est pas parce qu'on a manqué bébé qu'on va pas pouvoir tisser du lien enfant, ado ou adulte, et parce que on a cette appétence quand même en tant qu'être humain de toujours vouloir rechercher ce lien-là. Donc c'est assez phénoménal et c'est ça qui est à dire aussi aux personnes.
Blaise Pierre-Ambert, je rappelle que vous êtes psychologue en duplex de Lausanne. Quels sont les grands troubles de l'attachement ?
Oui, écoutez, moi j'aimerais intervenir quand même par rapport à cette question. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais j'aimerais quand même apporter un petit bémol ici, parce que nous sommes dans une culture actuellement qui valorise beaucoup l'expression émotionnelle. On reconnaît des besoins émotionnels aux bébés, on reconnaît des besoins émotionnels évidemment aux adultes, on a parlé de cette tendresse tout à l'heure, tout ceci est extrêmement important, je partage entièrement cette histoire-là. Mais j'aimerais quand même apporter une petite, un petit bémol, une petite distance
assez
par rapport à ça.
Assez rapidement s'il vous plaît, Blaise Pierre-Ambert.
Écoutez, je m'excuse, mais parce que c'est un petit peu difficile de réagir quand je vois pas l'ensemble des personnes qui sont là. C'est-à-dire que vous êtes dans notre histoire occidentale, il n'y a pas très longtemps, il y a deux générations, les psychologues disaient ne montrez pas vos émotions aux bébés, laissez pas vos bébés pleurer, laissez vos bébés pleurer, ne leur répondez pas quand ils pleurent. Je parle pas de n'importe qui ici, je parle du grand John Watson, qui était un des grands psychologues américains d'il y a une cinquantaine d'années, un peu plus, et je parle également de Johanna Harrer, qui est une pédiatre allemande qui était énormément reconnue évidemment pendant la période sombre de l'histoire allemande, mais qui pratiquait un peu la même idée, c'est-à-dire ne vous attachez pas au bébé, laissez-les pleurer, etc. Et donc notre société, nos grands-parents, pour certains d'entre nous, ont vécu cette époque-là, c'est-à-dire une époque où effectivement on ne laissait pas pleurer les bébés,
Pierre-Humbert. L'heure tourne, oui. Mon cher Blaise Pierre-Humbert, il vous a pas répondu à ma question, quels sont les grands troubles de l'attachement, donc je la pose donc à Bruno Humbert, quels sont les grands troubles de l'attachement, et question accessoire, comment soigne-t-on ces troubles?
Alors, le risque, c'est de devenir, et je vais le faire très simplement, c'est de devenir attachant, c'est-à-dire, et c'est le trouble majeur, c'est celui-là, c'est-à-dire soit on devient une espèce de personne qui prennent toutes les personnes de manière fusionnelle, en disant « attention, tu risques de me quitter ». L'attachement insécure crée des formes d'hypervigilance qui sont difficiles à vivre parfois pour le partenaire, parce que, et il y a une question toute simple que j'invite d'ailleurs les auditeurs, et même ici, à se poser. Si on veut savoir si effectivement on est capable d'aimer ou d'être aimé, il faut se poser la question « est-ce que je serais mon copain ?» Si je me clonais, est-ce que je serais mon copain ? Et est-ce que je trouve ça logique ou envisageable qu'on tombe amoureux ou amoureuse de moi ? Si vous répondez oui à ces deux questions, c'est que vous êtes disponible sur le marché affectif. Si vous hésitez, vous dites non, consulter, parce que l'estime de soi a sans doute été fragilisée par des expériences affectives difficiles.
Et quelles sont les grandes thérapies ? Et Myriam nous demande comment rattraper ce manque d'attachement par la suite ?
Ça, c'est une très belle question. Comment rattraper ? C'est une construction mentale, on l'a dit, par la déconstruction de ce qu'on a engrammé comme étant des scénarios qui sont intangibles. On les déconstruit avec l'aide d'un tiers. Hein. C'est à ça que servent les psychologues, essentiellement. Et à partir de là, cette déconstruction, on peut réaménager des manières d'envisager et de s'envisager dans l'attachement.
Anne-Luca ?
Après, c'est pas tellement le propos ici, mais il y a aussi des attachements très désorganisés, très perturbés, avec des parents tout à fait inadéquats et inadaptés avec leurs enfants, ce qui quand même entrave le développement, parce que les enfants n'arrivent pas à s'ajuster, à avoir la juste distance, à avoir la disponibilité pour apprendre. C'est assez dramatique, on voit des petits-enfants, par exemple, qui vont dans les bras de n'importe qui, et se consoler dans les bras de n'importe qui, tout petit. C'est tout à fait inadapté, ça, pour le coup.
Anne Néreté.
Très rapidement, il y a deux grands risques, deux grandes difficultés. La première, c'est d'éteindre ses besoins et ses demandes, ne plus parler, ne plus demander, ne plus donner non plus. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à tous âges de la vie, c'est-à-dire là on parle des enfants, mais par exemple chez les personnes âgées aussi, c'est très vrai. Ils sont dans un moment de demande de réassurance. Et l'autre écueil, c'est celui au contraire de maximiser ses besoins, de faire des colères, de faire des caprices, de devenir agressif et d'avoir aussi des comportements inadapté. Et ces deux écueils, on peut les travailler avec un psy, soit par des thérapies systémiques ou comportementales, ou en travaillant ces schémas mentaux.
Bonjour Anne, on termine avec votre témoignage. Bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Merci pour mon témoignage. Je voulais parler de moi.
Allez-y, faites-vous plaisir.
Expliquer que, alors pendant mon enfance, j'ai eu des parents très, très distants, très froids, assez critiques et je ne me suis pas sentie vraiment en sécurité, ni aimée, en fait, tout simplement, de mon point de vue. Alors, j'ai grandi, voilà. J'ai fait une thérapie avec un psychologue pendant quelques années qui m'a bien aidée. En revanche, je pensais pas connaître de difficultés jusqu'à ce que je sois enceinte et que j'ai mon premier garçon, puis un second. Et j'ai éprouvé de grandes difficultés à m'attacher à mes garçons pendant les premiers mois. Il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour passer le cap et la sensation que j'avais, que j'ai encore aujourd'hui, même si ça va mieux, beaucoup mieux, même si j'espère être une bonne maman, plutôt tendre d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, mais j'avais l'impression de ne pas avoir assez en stock, assez à donner. En fait, je me sentais pas suffisamment armée pour pouvoir les aimer avec beaucoup de tendresse, d'affection, de toucher, pour pouvoir les rassurer. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on sorte totalement indemne malgré les thérapies, malgré l'aide qu'on peut avoir, malgré la réflexion qu'on peut essayer de mener tout au long de sa vie pour s'affranchir de ce manque. Je ne sais pas si on peut complètement un jour être plein à nouveau, vous voyez, plein de de sentiments positifs et de se sentir assez bien pour pouvoir être en confiance avec les gens, les aimer, s'attacher pleinement, simplement. Voilà, donc je pense que tout le monde peut y arriver, mais voilà, je voulais simplement dire que c'est quand même difficile, c'est le sentiment que j'ai, assez difficile tout au long de sa vie de faire ça, en fait.
Mais personne n'est plein.
Merci beaucoup, Anne, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et une auditrice nous dit, en termes d'attachement, le regard est fondateur. Je me pose la question de toutes ces mères, les yeux rivés sur leur téléphone, à la maternité, au parc, à la sortie de l'école. Nos enfants ont besoin d'être regardés, reconnus, couvés du regard. Merci à tous d'avoir participé à Grand Bien Vous Fasse. Merci Blaise Pierre Humbert. L'attachement en question est publié chez Odile Jacob. Merci également Bruno Humbeck. Demain, dans Grand Bien Vous Fasse, on s'intéresse au pouvoir de la respiration avec notamment l'apnéiste Guillaume Méry.